Le journal, Mireille Bukassa.
L'ONG Amnesty International fustige de nouveaux cas de violences sexuelles et de tortures perpétrées contre les enfants enrôlés dans les groupes armés pour les empêcher de fuir. L'unité d'exécution du programme national DDR, qui condamne aussi cette pratique, évoque la reprise des hostilités dans l'est du pays comme cause de ces violences. À la une également, le décès de deux prisonniers du centre pénitentiaire et de rééducation de Mbujimaï. La malnutrition qui secoue cette prison serait à la base de ces décès, d'après les sources proches de l'administration pénitentiaire. Et puis, dans la seconde partie du journal, nous serons dans le Bandundu, précisément dans la cité d'Inongo, où les pluies diluviennes ont causé des dégâts matériels ce week-end en causant des sans-abri. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons le journal par ce rapport qui fustige de nouveaux cas de violences sexuelles et de tortures perpétrées contre les enfants enrôlés dans les groupes armés pour les empêcher de fuir. Ce rapport, publié ce lundi par l'ONG Amnesty International, est appuyé par l'unité d'exécution du Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion. Le responsable de l'UEPNDDR, qui condamne aussi cette pratique, ajoute que c'est la reprise des hostilités à l'est de la RDC qui a favorisé ces violences. Le professeur Tumbalwaba au micro de Belinda Bosuma.
Vous savez, il y a quelques mois, l'UEPNDDR, avec l'appui de l'UNICEF, a lancé la campagne Zéro Enfant associée aux forces et groupes armés. Mais malheureusement, la reprise des hostilités, essentiellement dans le Nord Kivu, gêne beaucoup cette campagne. Mais nous avons enregistré quand même quelques cas de sortie d'enfants des rangs des forces et groupes armés.
Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour arrêter ce fléau?
Nous menons un grand travail de sensibilisation au niveau des responsables des groupes armés. Mais il est vrai que la reprise des hostilités favorise le recrutement d'anciens enfants soldats même sortis. Mais nous avons pu recueillir une vingtaine d'enfants dans le sud de Kivu. Et pour le nord Kivu, il y a à peu près une quarantaine d'enfants qui ont été sortis entre le mois d'août et de septembre.
Parlant de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, plus d'une vingtaine de femmes du collectif des associations féminines pour le développement CAFED ont manifesté ce matin. Elles ont organisé un sit-in devant le bureau de la MONUC à Goma pour réclamer l'implication de la mission onusienne dans la recherche de la paix. Les pieds nus, certaines vêtues en noir, les manifestantes tenaient des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Nous sommes fatigués avec la guerre, nous voulons consommer les produits de nos propres champs ». Fin de citation. Dans leurs recommandations, les manifestantes réclament aussi l'implication par tout le moyen du gouvernement provincial. Et pendant ce temps, en Ituri, les miliciens FRPI ont attaqué ce matin le village de Tchéi. C'est à environ 80 km au sud de Bounia. Ces miliciens attaquent Tchéi après avoir arraché hier soir la localité de Bukiringi des mains des FRDC. Cette information est confirmée par certains officiers du 82e bataillon FRDC engagés dans le combat. Cependant, elle est rejetée par l'état-major opérationnel de l'armée gouvernementale à Bounia, Jean-Paul Basila.
L'attaque de Tchéi est confirmée également par la MONUC à Bounia ce matin, sans beaucoup de détails. Un officier de la 13e brigade intégrée indique que les miliciens se sont emparés brièvement d'une partie de la localité avant d'y retirer avec munitions et armes, abandonnées par une position des forces loyalistes. Hier dimanche, ce sont des villages des Sorodo et des Bukiringi qui ont été attaqués par des miliciens depuis 4 heures du matin. Certains officiers du 82e bataillon de FARDC contactés ce matin déclarent que leurs unités ont été délogées des Sorodo avant midi et des Bukiringi à fin d'après-midi. Le bilan de ces combats n'est pas encore connu. Les commandants d'intérim de la zone opérationnelle des FARDC en Ituri dément toutes ces informations. Colonel Nyembo Abdallah ne reconnaît pas l'existence de cette attaque effectuée contre ses troupes hier dimanche. Signalons également que trois éléments FARDC, parmi lesquels un lieutenant, sont morts dans une embuscade et leur tendue par les miliciens samedi dernier. Ces faits se sont déroulés à Kamati, village situé entre Aveba et Tchéi. Bounia, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, le président ad intérim de l'UPC, John Tinanzabo, est destitué de ses fonctions par certains cadres de ce parti de Thomas Lubanga. Cette annonce a été faite au cours d'un point de presse organisé le week-end dernier par son successeur, le professeur Jean-Baptiste Dechouvi. John Tinanzabo proteste contre cette décision et parle d'indiscipline au sein du parti. Il a promis de régler ce conflit dans les jours qui suivent. Au Kasaï-Oriental, nous l'avions dit dans le sommaire, deux détenus de la prison centrale de Mbujimayi sont décédés le week-end dernier. D'après des sources proches de l'administration pénitentiaire, ces défunts ont succombé de suite d'une diarrhée qui secoue ces derniers temps le centre pénitentiaire et de rééducation de Mbujimayi. Diarrhée qui fait suite à la malnutrition, une situation que dénoncent les ONG de défense des droits de l'homme. Esther Nalafina.
Ces deux défunts étaient jusque-là des prévenus du tribunal de grande instance. Le premier, un père d'une soixantaine d'années, était poursuivi pour viol de sa fillette. Il n'a fait à la prison que 1 mois et 20 jours seulement avant de mourir. Le second est un jeune âgé d'une vingtaine d'années. Lui était poursuivi pour vol qualifié. Il a connu la mort après 1 mois et 1 semaine de détention au centre pénitentiaire. Des sources proches de l'administration pénitentiaire, cette mort intervient suite à une diarrhée due à la malnutrition qui a secoué la prison de Mbujimayi la semaine dernière. Depuis le samedi, les deux corps traînaient toujours à la prison par manque de cercueil. Après leur descente sur le lieu, le ministre de la Justice et le conseiller financier du gouverneur viennent d'obtenir des cercueils pour l'inhumation de ces deux corps. Le procureur de la République qui déplore cette mort affirme avoir toujours rappelé le gardien du centre pénitentiaire de respecter le régime pénitentiaire, surtout pour les cas de détenus malades. De leur côté, les ONG de défense des droits de l'homme se disent préoccupés par la situation de la prison centrale. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
29 septembre 2007, 29 septembre 2008, exactement une année aujourd'hui, depuis la disparition d'un Antonov 12. Cet aéronef avait décollé de l'aéroport de Bangbuka à Kisangani pour Goma, dans la province du Nord Kivu, dans le cadre de ses rotations régulières, avant de disparaître dans les airs. Un an après sa disparition, on n'a toujours pas de suite. Pourtant, le ministère des Affaires étrangères avait initié une enquête à ce sujet, enquête qui jusque-là n'a pas encore abouti. Pendant l'inquiétude grandit dans les familles des victimes. C'est le cas de la famille de Maître Michel Chetebo Biamungu, qui était conseiller en charge de la communication au ministère de l'Énergie. Je vous propose d'écouter l'un des membres de cette famille, Maurice Muhombo Chetebo, s'exprime au téléphone de Nadine Fula.
Les autorités ont été saisies de la question et jusque-là, aucun résultat n'a été élucidé. C'est pas normal que les compatriotes congolais disparaissent du ciel congolais et qu'ils croisent les bras sans toutefois être impliqués. Nous voudrions que les autorités congolaises prennent conscience. L'appel que je peux lancer, c'est l'NSOS à tous les niveaux. Comme aujourd'hui déjà il y a une trace que le Soudan reconnaît l'atterrissage de cet Antonov, j'aimerais que les autorités soudanaises nous aident à retrouver le passager qui était à bord, entre autres Maître Michel Chetebo.
Rappelons qu'il y a quelques semaines, la question avait été posée par Radio Okapi au ministre de Transport et Communication, Mwando Simba. Ce dernier avait souligné que les investigations se poursuivent malgré que l'État congolais n'a trouvé aucun indice jusque-là. Au Sénat, la synthèse nationale des rapports cumulés des vacances parlementaires de juillet 2007 et de janvier 2008 a été envoyée ce lundi pour enrichissement à la commission spéciale. Ceci après débat en plénière. Dans ces rapports, les difficultés que rencontrent les populations ont été épinglées, notamment l'approvisionnement en eau et en électricité, la réhabilitation des infrastructures de base et l'insécurité. À ce propos, des recommandations ont été adressées aux gouvernements provinciaux et centrale. Il faut signaler que malgré que l'élaboration du rapport des vacances parlementaires soit obligatoire, pour juillet 2007, 78 sénateurs sur 108 l'ont déposé et pour janvier 2008, seulement 38 sur 108 se sont prononcés.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Nous irons dans le Bandundu et au Maniema, mais d'abord à Kinshasa, Lucie Yamba. 4 groupes de présumés criminels ont été présentés cet avant-midi à la presse à l'inspection générale de la police de Kinshasa.
Ces groupes de 30 personnes sont composés de vendeurs de chanvre et d'un groupe de kidnappeurs qui opèrent dans des taxis en dépouillant leurs victimes de tout bien de valeur. À ces derniers s'ajoutent des membres des gangs des quartiers de Kinshasa appelés appelée communément Kuluna. Et d'après l'inspecteur général de la police, l'arrestation de ces bandits ne s'arrêtera pas tant que le phénomène Kuluna ne sera pas éradiqué. S'agissant du fait que ces personnes ainsi arrêtées sont souvent relâchées, la police précise que c'est au parquet d'y veiller.
Dans la province du Bandundu, Dame la pluie a visité la cité d'Inongo le samedi dernier.
Une pluie diluvienne a causé des dégâts matériels importants dans cette cité située à près de 600 km au nord de Bandunduville. Plusieurs toitures, murs des maisons privées et autres édifices publics ont été emportés, ce qui laisse des dizaines de familles et services publics de cette cité sans abri. Basile Bakumbane.
La cathédrale Saint-Albert, 3 écoles primaires, l'Institut supérieur pédagogique et une quarantaine de maisons d'Inongo ont été fortement endommagées. Une pluie torrentielle qui n'avait duré qu'une trentaine de minutes le samedi dernier a ainsi ravagé la cité. Les toitures de maisons emportées, de murs écroulés, de arbres déracinés, des champs dévastés sont autant de dégâts causés par cette pluie. Hormis le dégât matériel, aucune blessure ni perte en vie humaine n'ont été enregistrées. Le chef de cité d'Inongo déplore les conditions précaires dans lesquelles se trouvent les victimes de cette catastrophe depuis le samedi dernier. Plus d'une dizaine de familles restent exposées aux intempéries. Monsieur Simon Bowemba affirme qu'il a amorcé la réhabilitation de quelques maisons avec l'appui de la communauté locale, ce qui a facilité l'hébergement en groupe de quelques familles victimes. Il s'est dit cependant débordé par l'ampleur des urgences pour les écoles et autres édifices publics, d'où son appel lancé aux autorités publiques, aux ONG et autres hommes de bonne volonté pour voler au secours de sa cité. De Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Et au Maniema, c'est un ouragan qui a touché la ligne électrique Kindu-Kalima.
Cette nuit, un arbre est tombé sur les fils conducteurs d'énergie de cette ligne électrique, ce qui a plongé de nouveau la ville de Kindu dans le noir. La SNEL a dépêché une équipe de techniciens sur place pour évaluer les dégâts et tenter de trouver une solution. Jean-Serge Chindani nous en parle.
À cette situation du manque de courant suite aux conséquences de l'ouragan de cette nuit, s'ajoute le manque d'eau à Kindu. La régie des eaux ne sait pas fournir de l'eau pure à ses abonnés faute d'énergie. La SNEL vient de dépêcher une équipe de techniciens sur place pour évaluer les dégâts et tenter de trouver une solution. Notons que ce manque de courant surgit au moment où les abonnés de la SNEL étaient déjà au zénith avec la stabilité du courant. D'abord, parce que la centrale hydroélectrique de Rutshurukulu venait d'être entretenue, ainsi que le bassin 5 qui remplit une grande capacité d'eau. Par ailleurs, on signale dans plusieurs quartiers de la ville des dégâts matériels qui ont été enregistrés, mais pas des pertes en vie humaine. Il s'agit, entre autres, de l'écroulement de la grande église tabernacle dans la commune de Mikelenge et des toitures d'environ 5 maisons qui ont été emportées par cette tornade. De Kindu, Jean-Serge Chindani, Radio Okapi.
La culture nous emmène au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa.
L'Union nationale des reporters photographes de la RDC, une arrêt en sigle, prime ce soir les lauréats du concours sur la photographie organisé dans le cadre de la première édition de la Biennale de la photographie et du dessin en cours. 5 lauréats au total sélectionnés sur les 50 participants seront primés dans les catégories suivantes. Meilleur reportage, meilleur portrait, meilleur documentaire, meilleur œuvre plastique ou d'auteur et prix du jury. Les lauréats recevront des prix en argent et en matériel offerts par l'ASBL Africalia, le Centre Wallonie-Bruxelles, Globatech et Fujifilm. Présidé par le professeur Lema Koussa, le jury de ce concours regroupe des professeurs d'université, des critiques d'art et des photographes.
En dehors de nos frontières, une faction rebelle de la Centrafrique a attaqué dans la nuit de dimanche à lundi, le village d'Amdafok, proche de la frontière soudanaise et à 70 km à l'est de Birao. Furka, c'est le nom de cette nouvelle faction rebelle dirigée par Oumar Soubien. Ce dernier refuse l'accord de paix signé par le chef de l'UFDR, Daman Zakaria, avec le président centrafricain François Bozizé, dans le cadre des accords préalables au dialogue politique inclusif rassemblant toutes les parties centrafricaines. Le 30e safari international du Congo a vécu. Les frères Argazi l'ont remporté brillamment après avoir parcouru les 1500 kilomètres sélectifs au terme de 4 journées. À citer aussi les équipages congolais, Watuila Simba Lutonadio sur Land Rover, qui le premier a craqué juste au sortir de la banque congolaise lors de la 2e journée. C'était le vendredi dernier. Son frère Watuila Mbemba, également sur une Land Rover offerte par le président de la République, a capitulé à cause d'une panne sèche. Ceci serait une conséquence d'un manque de coordination entre le pilote et son assistance. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.